premier EP, premier album même, parce qu'il y a quand même pas mal de titres dessus. Et on écoute le morceau, j'ai dit Beach Town, voilà, Nota, c'est premier EP. Topette.
Salut.
Salut.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Eh ben, on est en direct, hein, du coup, je sais pas pourquoi. Le générique ne veut plus marcher, c'est pas
grave. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue, c'est sérieux, sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voix du scénarium. Ce soir, on va parler de plein de choses, mais je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Nolwenn. Ça va, Nolwenn?
Ça va et toi?
Ça roule. Je suis également en compagnie de Romain.
Salut.
Et je suis aussi en compagnie de Charles. Ça va, Charles?
Très bien. Fraîchement adoubé, princesse.
Ouais. Pourquoi Charles dit ça? C'est qu'on sort d'une partie avec Romain de Péril et Princesse, dont on va parler là maintenant tout de suite. Hein.
Et Charles et Camille.
Avec Charles s'échapper. Et Camille qui vient de s'échapper parce qu'elle doit travailler ses cours pour demain. On lui souhaite bon courage pour ses cours. Tu avais l'ouvrage peut-être. Alors pour ceux qui nous rejoignent là dès ce soir et tous les lundis maintenant, on va autant que faire se peut être en direct live sur YouTube. Donc si vous voulez voir nos trognes et profiter de mon meilleur profil, le gauche ou le droite, allez sur Radio G Angers, c'est ça, Nolwenn?
Surtout pas Radio G Angers, juste Radio G. Ça affiche directement
sur YouTube. Voilà, donc vous pourrez nous voir gentiment et puis nous laisser des petits messages sur le chat si vous n'utilisez pas le chat de la radio classique. Donc t'as paumé tes bouquins?
Ouais.
Ok, c'est pas mal.
Ils doivent pas être très loin.
On va les trouver. Alors, on y a que deux pièces, ça devrait être pas mal. Donc Péril et Princesses, qui est un ouvrage publié aux éditions La Loutre Rôliste. Je n'ai plus le nom des auteurs.
C'est Ryan Lynch.
Ryan Lynch.
Écrit et dessiné.
Ok.
Ce premier ouvrage.
Dans lequel on va jouer des princesses qui vont affronter des périls, si vous suivez bien. C'est pas mal quand même. Système de jeu très simple.
J'ai pas trouvé ça si simple que ça, moi.
Le setup était touffu, si ce n'est fouillis peut-être parfois.
Eh ben, il y a Chloé qui nous dit coucou, bonjour Chloé.
Alors, c'est peut-être le côté OSR du jeu, non? Je sais pas, alors, ça se veut OSR.
Bah, OSR
NSR
pour,
même, j'ai lu.
Old School Renewal ou New Old School Renewal, donc le renouveau des vieux sociétés qui sont censés être quand même relativement simples et légers en règles comparé à du Donjons et Dragons ou du Pathfinder si vraiment on veut faire du tableau Excel. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de verbose qui peut-être confusait un petit peu sur les différents niveaux de choses, les points de cœur et les dés de cœur.
Ouais, il y a des choses qui peuvent se changer. Il y a les talents, les aptitudes, les dons qui
sont
des choses différentes.
Grosso modo, on va avoir trois caractéristiques.
Oui.
Détermination, grâce, esprit, qui vont faire la force, l'agilité et puis le mental.
L'intelligence.
On a quelques compétences qui sont plutôt des dons, puisque on est des princesses, donc on a été dotés par la nature de marraines fées. Moi, par exemple, tout à l'heure, mon personnage était avait une magie culinaire, donc j'étais capable de, par exemple, lire les feuilles de thé et puis de refaire des petits moments de thé.
Donc il y a 8 dons qui sont un peu 8 classes de personnages, plutôt des classes de princesses.
Ouais. Donc plutôt cool à jouer, plutôt accessible pour les plus jeunes, je pense. Même si effectivement la mécanique de jeu demande un peu d'appréhension, mais une fois qu'on a compris les types de dés à jeter, globalement, ça roule.
Après, il y a toujours la question, c'est le système de jeu, il veut faire quoi? Il y a des systèmes de jeu qui veulent être vraiment mécaniques, il y en a qui veulent vraiment être raconter une histoire. Là, j'ai plus l'impression que c'est un peu des excuses pour donner du grain à moudre aux joueurs, mais c'est surtout pour raconter des histoires un peu fun, un peu à la Shrek, c'est ça, des princesses fortes, qui ont du caractère, qui sont elles-mêmes uniques et qui ont besoin de personne d'autre, ou alors leur coéquipière pour faire des actions derrière.
L'empowerment, le girl power, quoi.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Même juste la personne power, c'est vrai que.
Oui, c'est vrai que. Ouais.
C'est princesse, mais il y a pas une. Je pense pas qu'il y ait une volonté que ce soit que des filles et tout. Après, c'est rigolo. Moi, je trouve jouer une princesse pour moi, c'est pas un personnage.
Je pense qu'à la page 2, ils le disent. Vous pouvez être aussi un prince, mais après, pendant les 130 pages qui restent, on parle de princesse.
Ouais, c'est franchement cool, je trouve.
Il y a peu de jeux de rôle où on a l'habitude de jouer. C'est ça, une princesse en talon. Enfin, je me suis jamais dit que j'allais jouer. Une princesse, sur l'idée, c'est sympa parce que dans l'imaginaire Disney qu'on a, il y en a quand même plein qui ont plein de pouvoirs. Elles ont toutes des personnalités intéressantes, elles sont assez iconiques et pouvoir jouer une icône, c'est toujours intéressant.
Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on était trois personnes, deux hommes, une femme. On s'est à aucun moment posé la question de vouloir transgresser un peu les règles pour jouer quelque chose d'un autre genre, alors qu'effectivement, les règles le permettent. Que ce soit toi, moi ou même Camille, on a tous décidé de jouer un personnage féminin et de la manière que ça nous était proposé, sans vraiment se poser de questions. Et
on est parti sur des clichés de princesse ouais. Disney quand même.
Mais le jeu s'amuse, moi je trouve un peu des clichés de princesse dans les contes de fées. Ouais.
Bah, c'est comme ça que c'est le mieux, hein, je trouve.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est toujours, c'est ça, c'est intéressant. Enfin, c'est subversif. Non, mais c'est vrai que je trouve que le premier choc, c'est ça, c'est on va jouer des princesses. On se dit, bah non, les princesses, elles font attention, elles se blessent pas, machin. Et donc déjà, il y a un jeu là-dessus qui est intéressant. Et je vais reparler de Shrek, mais quand on voit la Fiona qui chante, qui fait exploser les oiseaux parce qu'elle chante trop fort, on est dans ce
oui, chose dans ce rôle-là, délire, ouais.
Les univers un petit peu acidulés en fait du conte de fées.
Et ça marche très bien.
Tout à fait.
Bah moi, j'ai pris un pied assez fou à jouer.
Bah
quand
c'est
même.
Cool.
C'est très, 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 très bien. Pourquoi tu voulais qu'on en parle ce soir, Romain ?
Eh ben, parce qu'en fait, il y a le financement, voilà. Il y a le fou lancement pour la campagne qui a été écrite après. Alors, pas par Ryan Lynch cette fois. Elle a été écrite par Destiny Howell, qui avait écrit un des deux scénarios qu'on trouve dans le livre de base. Et le fou lancement s'arrête dans 2 jours. Donc, c'est pour ça que je me disais, bah,
c'est vraiment c'est l'occasion le moment d'en parler.
Avec donc il prévoit de faire un deuxième livre qui ressemble beaucoup au premier. Alors c'est dommage, on l'a paumé.
Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Parce que j'ai pas parcouru le livre, tu l'as fait Romain.
Alors j'ai lu que 2 fois. On a fait un peu en mode commando quand même.
C'était un peu l'idée. Un seul scénario, les autres scénarios et les livres à venir, qu'est-ce qu'on peut en
attendre? Alors l'autre scénario, je trouve, fait un peu donjon.
OK.
C'est un peu l'exploration d'un souterrain avec plein de niveaux et puis les descriptions de chaque pièce.
Pour parler au rôliste plus classique.
Probablement, oui.
Mais il y avait un côté OSR à revendiquer, hein, donc quand ils ont créé ce jeu, donc ça fait partie du truc. Et puis donc ce sera un livre de 130 pages quand même, donc ça va être une grande campagne avec beaucoup de descriptions de lieux. Là, on va vraiment pouvoir explorer le royaume enchanté. Alors il y a un pitch, hein, c'est que il y a une malédiction qui se répand, qui commence dans une forêt et qui se répand de plus en plus, où les gens, les villageois, sont transformés en bonbons.
Sachant que le scénario s'appelle Vengeance sucrée.
Ouais.
Est-ce qu'on a le droit de manger les villageois?
Bah ça c'est toi qui vois. Ça c'est ça la magie du jeu de rôle.
Est-ce que ça devient du cannibalisme du coup?
Ce sera ton prochain sujet, Nolwenn.
En tout cas,
que manger des choses.
Tu me fais pas de cadeau quand même.
Non, jamais.
Le scénario qu'on a joué, c'était un peu la préquelle en fait à cette campagne qui est censée se passer plusieurs années après d'ailleurs.
Où on a quand même réussi à manger plusieurs personnages vivants en bonbons. Donc bon, on est déjà pas trop loin du cannibalisme.
Alors c'est quand même un jeu. On parle beaucoup de bouffe, moi je trouve. Et d'ailleurs, les moments de repos où vos personnages peuvent regagner des points, ce sont des pique-niques. Ouais.
Des pique-niques et puis on peut se faire du thé.
Est-ce un problème de parler de plus de nourriture dans les jeux de rôle?
Ça donne encore plus, hein?
Sachant que souvent, en plus, le jeu de rôle est un loisir qui amène déjà énormément de gras et de sucre autour de la table. Donc,
on parle de convivialité.
Oui, complètement. À l'heure où je vous parle,
c'est largement
fou lancé. Le financement est à 166 souscripteurs. On est à 368% du montant désiré, sachant que la loutre est toujours plutôt modeste sur les montants désirés.
Et après, il reste une campagne pour un jeu, ouais, qui a pas été tiré, je pense, énormément, parce qu'il parle de réimpression du livre de base déjà dans leur fou lancement. Donc, je pense qu'ils en ont pas tiré tant que ça. Il y a eu un petit buzz quand même au moment où je l'ai acheté. Hein, c'était au début de l'été sur ce jeu. Et là, dans le fou lancement, il y a aussi pas mal de goodies qui arrivent, mais c'est vraiment pour cette campagne. Ce seront des cartes, des endroits à explorer. Alors, il y a aussi des cartes à jouer, des cartes d'objets. Il y a aussi des cartes de malédiction. Donc, on la tire un petit peu au hasard quand on n'a pas de chance.
Cartes d'objets magiques, de malédiction et tous les objets.
Et puis, feuilles de personnages, enfin, des feuilles de princesse, et puis, des prêts tirés.
Sachant que le livre de base est... acquérissable.
On peut l'acheter tout à fait. Ça coûte à peu près 30 euros et je trouve
29,90.
C'est un très joli bouquin avec une dorure sur la couverture.
Ça aurait été bien qu'on le montre sur les caméras.
Un joli signé qui est parti un peu en plume de Phoenix là, mon signé pendant cette deuxième partie. Et dedans, moi j'aime bien les illustrations de Ryan Lynch.
Ouais,
que je trouve
très stylées.
Il faut un petit peu roman graphique, je dirais. Pas pourquoi.
Je trouve qu'il a réussi à prendre l'essence de la gravure médiévale pour arriver à cartoonisait un petit peu ça, et il y a un mélange en fait de
c'est pas non plus
d'anciens...
trop enfantine. Elles ont ce petit côté creepy qu'on attend de la forêt enchantée, qu'on attend un petit peu de ces choses qui sont féeriques, mais sur le côté un peu plus sombre. Et elles sont assez jolies. Ouais.
Et d'ailleurs, un conte est toujours un peu spooky à la base. Hein.
Et d'ailleurs, le bestiaire, je voulais pas montrer, mais les pages du bestiaire sont vraiment beaucoup plus creepy que tout le reste. Et le dessin est pas le même. Les créatures sont un peu comme si elles étaient gribouillées, comme si un enfant avait gribouillé des monstres en fait.
Le malaise vient souvent du contraste. On est des princesses, on est rose bonbon, bleu pétant pour reprendre les couleurs Disney. On vient d'un monde de petits oiseaux et de jolies fleurs. Être confronté à ce malaise, c'est souvent ça qui crée le décalage, qui peut être fun ou inquiétant et souvent qui est plutôt intéressant. Et puis de mettre les joueurs en situation de tension comme ça par ce contraste, c'est toujours plus sympa pour des aventures.
Ouais. Et tu parlais de couleurs, le livre est noir et blanc et rose pastel. Et moi j'aime bien quand il y a qu'une couleur dorée à l'extérieur. Ouais.
C'est dommage qu'on l'ait pas. Ouais.
On l'a perdu entre les deux pièces de Radio G.
Ouais, on n'a vraiment pas de bol. Ce que je propose, c'est que pendant que tu vas fouiller pour nous le trouver, ce bouquin, on va parler d'autres choses et puis on y revient juste après. Tu nous avais apporté des musiques, on fait la pause musicale, on parle d'autre chose et on montre le bouquin.
Ouais, ok.
Comme ça, on gagne un peu de temps.
J'avais choisi deux musiques, moi, que j'avais mis dans ma playlist pour ce jeu.
Lesquelles tu veux? Tu me dis ce que tu veux qu'on lance.
Eh ben, la plus gaie ou la plus triste?
C'est vous qui voyez. Allez, la gaie, on y est parti.
Bon, ben, c'est la BO de Désenchanté.
Allez, c'est Mark Motherspoke.
Ouais, l'ancien leader de Divo, qui fait pas mal de musique. De film aujourd'hui ou de série.
On se retrouve tout de suite après. Si ça veut bien. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G et sur YouTube, c'est toujours les caisses de Seb.
Non, c'est les voix du scénarium.
Et c'est toujours les voix du scénarium, pardon. Étienne, musique de nuit, musique de nuit. Oui, c'est bien le générique de Desenchanted. Bien joué.
Où il y avait une princesse.
Princesse.
Personnage principal. Et j'aime bien le petit démon qui est avec elle, enfin même l'elfe qui est avec elle.
C'est un
j'adore
conte de fées cassé. Tout à l'heure, avant de faire la coupure musicale, on parlait de Péril et Princesse. Je sais pas si vous le voyez bien. On l'a retrouvé. C'est un super bouquin. Alors, de loin, c'est pas top top, mais voilà. Il y a plein de jolies choses. C'est un joli bouquin avec un signet, là, qui est parti en queue de phénix. Voilà, c'est une mauvaise manipulation, je pense, de la part de Romain.
Merci.
Voilà. On va parler maintenant du manga qui est en train de lire Nolwenn. On va parler de Sohara et les bâtisseurs fantastiques, publié aux éditions Kana de... J'ai une mémoire, mais pas suffisante pour me rappeler du nom de l'auteur, s'il te plaît.
Hidenori Yamaji, si ma prononciation est correcte.
Ça doit être, ta prononciation est correcte. Je vous fais un petit synopsis et vous allez me dire, ouais mais Seb, on est dans les volets scénarium, on parle pas de BD.
Tu t'es encore trompé d'émission. Mais
moi quand je suis arrivé, j'ai vu le manga, je me suis dit, bah pas du tout, c'est la case de Seb ce soir ou comment
ça. Eh ben non. Pourquoi ça pourquoi je vous parle de Sohara et les bâtisseurs fantastiques? L'histoire est simple, Sohara est une jeune fille qui a été élevée toute sa vie pour trucider du monstre,
une princesse.
Depuis des années non pas vraiment une princesse, mais elle a été séquestre enfant, Nikita version Monster Killer. Et au jour où elle est prête, son entraînement est fin prêt, elle va voir son roi et dit ça y est, je vais pouvoir trucider du monstre. Attire l'haricot. Et ben les monstres ont décidé de faire une trêve avec les humains, ce qui fait que la pauvre Sohara qui a été élevée sans amis, sans rien, juste à trucider du monstre, elle peut même pas faire ce pourquoi elle a été élevée, puisque les monstres ne se battent plus. Du coup, elle va errer sur les routes et puis elle va rencontrer trois nains qui sont des créatures, des monstres dans cet univers-là. Et ces trois nains sont des nains ingénieurs. Ils accompagnent en fait architectes plutôt qu'ingénieurs. Et ils vont à la rencontre de monstres qui vivent dans des conditions peu décentes pour les aider à refaire des maisons telles que ils en ont besoin.
Attends, des monstres à qui on aurait cassé leur maison ?
Des monstres qui, à cause de la guerre, en fait, vivent dans des conditions qui sont peu décentes. Parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'ils ont plus de... Voilà, donc les premiers monstres qu'on rencontre, c'est des gobelins qui vivent dans un truc où le sol leur fait mal aux pieds, il est froid, il y a des pics, il y a des ossements partout.
Gobelins, quoi.
Et du coup, façon Valérie Damido, ils vont tout lui refaire là-dedans. Et Sohara va commencer à suivre ces gobelins pour se rendre compte que trois nains, pour se rendre compte que les habitations des monstres peuvent avoir des fonctions et on découvre vraiment l'habitat de ces monstres tels qu'ils devraient être, pas tels que on les perçoit, et tels qu'on les perçoit, c'est plutôt la façon dont on les perçoit en tant que aventurier de jeu de rôle. On en parlait tout à l'heure. Souvent, c'est il y a des monstres, ils vivent comme ça, à peu près bizarre, au fond de la caverne. Et puis, rarement dans une partie de jeu de rôle, on a commencé à me décrire l'habitat d'un troll, d'un orc ou d'un gobelin, par exemple.
Et l'habitat des monstres est souvent leur dernier lieu de vie en plus quand les aventuriers passent.
C'est tout à fait ça. Donc je trouvais ça assez intéressant en fait de s'intéresser à comment vivent les monstres. Alors sachant que voilà, il y a deux parties, il y a le avant et le après. Ça peut donner des pistes en tant que rôliste pour créer des endroits logiques, parce que il y a toute une logique qui tend en fait les habitats tels qu'ils sont décrits dans le manga, pour pouvoir créer des habitats de monstres crédibles et les faire visiter par des aventuriers.
Dans le manga, il y a des plans, non ? Un peu aussi ?
Ouais. En fait, à chaque fois qu'ils vont rénover un habitat, ils vont montrer le avant-après, décrire qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui a été corrigé et comment ça a été corrigé. Sachant que les corrections, souvent, c'est de l'ordre du fantastique, c'est des choses qui ne sont pas forcément très utiles, mais faire un plancher chauffant en faisant passer un cours de lave en dessous le sol, ça reste, je pense, globalement crédible dans un univers de fantasy.
Je retrouve un peu un côté Donjons et Dragons.
Glouton et Dragon.
Glouton et Dragon, ouais, merci.
Ouais. Il y a un peu de ça, ouais.
Et avec ce côté cycle de la vie du donjon, où en fait c'est un écosystème et que l'humain vient plus ou moins perturber, et c'est quoi notre approche au monstre, qui apportait aussi une petite réflexion un peu différente de ce qu'on voyait d'habitude du donjon, que c'est pas juste un endroit où tu es des monstres, c'est aussi un endroit vivant où il y a un écosystème qui semble être développé là spécifiquement sur la maison.
Il y a même plus que ça en fait, puisque non seulement l'écosystème il est développé, mais il y a aussi une économie qui est développée, puisque les trois nains se font payer en matériaux en fait. Donc ils viennent, ils filent un coup de main, ils sont des amis bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, et ils attirent l'attention d'autres personnes qui vont avoir eux aussi envie de rénover leur habitat, et toute leur économie fonctionne là-dessus. Et je trouve que ça marche très bien. C'est fantastique. Il y a des choses qui sont moins cohérente que l'autre, mais ça se tient dans la structure. Et je pense que si on voulait s'amuser à travailler un petit peu les univers et les habitats des monstres, s'appuyer sur cet ouvrage-là, c'est plutôt une bonne idée.
Bah, c'est vrai que c'est plutôt inspirant. Moi qui utilise souvent du coup le site AddD&D pour faire mes chroniques et avoir les, que ce soit les stats ou les descriptions de monstres, donjons et dragons, c'est souvent ça tient sur une ligne. Ça va là, tel monstre vit dans le désert, tel monstre vit dans les forêts du Shoreland. Et étant sur The Witcher en ce moment, il y a un côté un peu naturaliste de se dire qu'on peut vraiment pousser le trait à aller chercher et décrire l'habitat des monstres pour bah ok. Là, mes joueurs et mes joueuses, ils vont pas juste tomber sur un ordre de d'orques ou de gobelins, et en fait, ils vont commencer dans une caverne, ils vont voir qu'il y a peut-être des marques au sol pour des croix directionnelles et tout un système de repérage ou des restes d'alimentation parce que c'est le coin, voilà, c'est leur poubelle à eux, et ça peut être intéressant de transformer, enfin, de faire une sorte de prélude à un combat en décrivant l'habitat pour aussi donner aux joueurs et joueuses, bah voilà, je vais pas vous dire ce sur quoi vous allez tomber tout de suite, c'est à vous de faire l'exercice mental, et selon les informations que je vous donne, et aussi ce que vous connaissez ou pas de l'univers de jeu de rôle, peut-être essayer de d'enquêter en, sur ça et de faire votre propre avis.
Avoir du storytelling dans le world building, donc c'est, c'est deux anglicismes, donc c'est raconter une histoire à travers la construction du monde qui est intéressante.
Tout à fait, sachant que même les habitations humaines dans le jeu de rôle sont souvent décrites de façon sommaire. Il y a beaucoup d'univers où on n'a pas de toilettes, on n'a pas de vraies chambres parce que c'est pas utile à l'intrigue. Alors effectivement, le but n'est pas non plus de noyer les joueurs sous des éléments où ils vont passer une demi-heure à fouiller une pièce qui sert à rien. Mais garder cette crédibilité-là, je trouve que c'est quand même hyper important parce que ça donne aussi de la cohérence à vos mondes, quoi.
Alors il y a des bestiaires qui sont très fournis quand même. Celui de Nullbuck, par exemple. Mm-hmm. Le grimoire, là, il fait 500 pages. Hein. Je pense que c'est le plus gros bestiaire écrit pour un jeu de rôle francophone, où on raconte énormément de choses sur toutes ces créatures qu'on croise. Et sinon, je voulais mentionner Dessine-moi un donjon, dont j'ai perdu le nom de l'auteur, qui était sorti. Première version était sortie chez Narrativist Edition, et maintenant ça doit s'appeler 500 nuances de geek. Donc il vient de sortir la V2, et c'est un livre de création de donjons, mais où on pense l'écologie du donjon, et l'histoire du donjon avec à chaque fois qu'est-ce qui se passe, telle créature vient y vivre et tout, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle va laisser 100 ans plus tard quand une autre créature va venir s'installer à sa place. Et on pouvait dessiner aussi au fur et à mesure le donjon de côté, là, en coupe. Donc voilà un livre qui n'est pas très cher d'ailleurs, où on réfléchit vraiment, mais alors plus donc la géographie de l'endroit que vraiment sur chaque espèce qui y vit ou qui a vécu.
Moi, un donjon, deuxième édition, c'est de Tony Dollar, et c'est, j'ai pas le nombre de pages, si, détail du produit.
Alors, il y a pas mal de choses qui se tirent.
On a pas le nombre de pages, mais par contre, on est sur 38 euros, quand même.
D'accord, ok. Moi, j'en avais un. Mais ben, j'imagine que si on l'a ressorti, il en a fait quelque chose de beaucoup plus construit.
Ouais. En tout cas, ça donne envie de détailler, de faire des choses. Donc, moi, je vous conseille Sohara et les bâtisseurs fantastiques. C'est publié aux éditions Kana et l'auteur, je ne me rappelle toujours pas de tête.
Hidenori Yamadi.
Merci, Nolwenn. Et on salue Étienne Musique de Nuit qui nous dit, blague à part, il était là pour sa dégouine dans le cornet, il ne savait pas qu'il y avait une émission rôliste et du coup, on a gagné un auditeur. Yeah! Donc, tous les 15 jours avec nous, Étienne. On va continuer avec toi, Charles. Alors, je vais être hyper transparent avec vous, chers auditeurs. C'était pas du tout prévu. Moi, j'avais prévu de jouer une partie de Péril et Princesse avec Romain, qui me dit, je vais faire venir deux autres joueurs. Cool. Il y avait Charles, Camille. Puis on commence à discuter et Charles me sort un tapis de cul de chouette. Et là, je me dis, tiens, d'où ça vient? Et du coup, on commence à discuter et là, je me rends compte que Charles adore le jeu de rôle. Charles est sans doute un vieux rôliste et pas tant que ça.
Pas tant que ça, étonnamment.
Ah, bah écoute. Eh ben écoute, est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour.
Qui es-tu, Charles?
Je m'appelle Charles.
Bonjour Charles.
Alors non, le jeu de rôle, je l'ai commencé relativement tard. Je pense que j'ai toujours été relativement geek, mais en fait j'ai dû faire mes premières parties de jeu de rôle à 18-19 ans au final, et j'ai pas trop aimé. J'ai fait du Donjons et Dragons et c'était fun parce que j'étais avec mes potes, parce que on mangeait du gras et de la convivialité à longueur de journée, mais je me suis dit que c'était intéressant, mais le système m'avait pas passionné. Et puis il y a quelques années, pendant le Covid, je m'y suis remis sur un virtual tabletop, donc un outil en ligne qui s'appelle Tellspire, sur lequel moi j'ai vraiment accroché. C'est un Lego en ligne, donc j'en ai fait énormément. Et puis j'ai testé différents systèmes, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas que l'hégémonie Donjons et Dragons, et comme les livres, il y en avait un pour tout le monde. Et j'ai trouvé des systèmes que j'aime beaucoup, qui s'appellent entre autres Morkborg, qui est aussi un OSR, un old school roleplay system, et qui est extrêmement simple, qui est très métal, qui est très sanglant, gore, qui est très débile, je trouve. On peut le jouer vraiment plus dark, un peu effrayant. Moi j'aime bien le jouer un petit peu plus bête et méchant, mais sur lequel on s'amuse beaucoup et sur lequel je me suis beaucoup plus retrouvé, qui fait plus la part belle au jeu de rôle, donc au jeu vraiment social, plus qu'aux mécaniques complexes, et ce qui m'intéressait pas tellement. Je veux avoir des histoires avec mes copains, faire des choses chouettes et bêtes, plutôt que de passer du temps à gérer des statistiques sur une feuille de personnage qu'on peut faire un peu dans notre vie de tous les jours sur Excel. Voilà, donc c'était ça.
Sachant que on se l'est dit tout à l'heure, Morkborg est aussi un objet graphique très très génial. C'est en cours de traduction chez Arkane.
Non, ça va sortir. Le full lancement arrive chez Agathe.
Chez Agathe.
Ouais. En fait, ça a été compliqué. Ça fait 5 ans, je pense, que c'est sorti. Morkborg, les éditeurs français. Ouais. L'objet est tellement travaillé. Technique. Que ça a fait peur à beaucoup de monde.
Le livre est dur à faire, simplement. Donc rien que rechanger l'édition, comme c'est extrêmement graphique, on est obligé de refaire tout le layout du livre, je suppose. Et c'est quand même assez complexe. Déjà qu'une traduction, c'est pas toujours facile. Là, on s'attaque à un outil, à un objet qui est quand même assez monumental et qui a une vraie direction artistique. Donc je pense qu'on y touche avec des gants, sans doute, comme objet.
Ouais, moi je pensais que c'était un truc qui allait être intraduisible, parce que effectivement chaque texte a une configuration dans sa page qui rend le truc
ce qui est intéressant,
c'est pensé en amont déjà.
C'est qu'il y a une traduction japonaise par exemple qui est complètement différente. Et en fait, plutôt que traduire simplement le texte, ils ont fait une version japonaise avec des samouraïs, des ninjas, des yokai, des choses comme ça, mais le texte n'existe que en japonais, donc c'est en fait encore plus un objet presque iconique. Mais donc c'est intéressant de voir qu'ils l'ont fait. Je pense pas qu'il y aura une version baguette et saucisson complètement transformée,
mais peut-être qu'Agathe va nous proposer quelques add-ons comme ça.
Ce serait intéressant.
Verra, ça peut être un gros challenge.
Un French Borg.
Ce serait. Après, c'est aussi la beauté de ce système de Morkborg, c'est que la communauté s'en est emparée, parce qu'ils ont rapidement lancé une licence third party license, ça s'appelle ouverte. Ouais. À partir du moment où on dit qu'on utilise Morkborg, on a quasiment le droit d'en faire ce que tu veux et de le monnayer. Et ça a motivé énormément la communauté à en faire des tonnes de variations et d'add-ons, de suppléments et de contenu pour le jeu, ce qui le fait vivre extrêmement fort.
Et ça a aussi pu se faire parce que c'est quand même un jeu qui est, enfin, le monde, l'univers est assez peu décrit. Vraiment qu'en quelques grandes lignes. Donc ça a laissé beaucoup de place quand même pour rajouter de la matière.
C'est un livre de 50 pages. Je pense que la version texte only, texte seulement, c'est un PDF de 15 pages, plutôt parse. Enfin, plutôt, il n'y a pas tellement de texte. Donc en fait, les visuels sont si impactants, comme tu le disais. C'est très évocatif et on a envie de créer ça. C'est un appel à la création comme objet, et c'est toujours intéressant comme univers qui nous appelle, comme ça, qui nous apte.
Et ça, ils ont été vraiment sympas, Johan Nor et Paul et Nielsen, à la base. Quand ils ont vu qu'il y avait de la création, ne serait-ce que sur le groupe Facebook, qui s'est fait quasiment aussitôt, ils ont dit on va faire un site, et puis on va mettre plein de choses, et puis si vos créations nous plaisent, on les met sur le site. Et puis finalement, ils ont été débordés par les créations, et là ils ont dit bon, maintenant c'est licence et tout, débrouillez-vous.
C'est un plaisir.
Ouais.
Sachant que on va finir sur la partie graphique, sinon on y passera des heures, parce que c'est vraiment un monument. Mais juste sur le livre de base, on l'évoquait tout à l'heure, il y a un signet tissu, ce qui est très cool, mais le signet est imprimé. Ce qui est,
il y a des trucs
super rares, il y a des trucs d'écrit dessus. Le dos du livre brille dans le noir.
Phosphorescent.
Il est phosphorescent. Il y a tellement de choses dans cet ouvrage que ça en devient de la matière. Et Charles, tu soulignais que dans une des extensions, il y a même
un petit message qui est caché.
En emboss, ouais, comme s'il avait été pressé et donc
presque en braille,
caché,
quoi.
Presque en braille, en effet. Donc on le touche plus qu'on le voit. Et d'ailleurs, c'est la version cyborg, donc la version futuriste de Mark Borg, qui a deux signets dedans. Donc déjà, en plus, on double.
Ouais, cyborg, je trouve encore plus fou comme livre.
Et cyborg est plus gros. Il y a plus de choses. On sent qu'ils ont un peu plus maîtrisé la formule. Mais oui, le livre est presque encore plus beau. Après, c'est vrai qu'on aime plus ou moins le cyborg, qui est un peu plus niche dans le jeu de rôle, mais le livre est tout aussi magnifique.
Il y a Pirate Borg qui existe, il y a plein de versions qui existent. C'est ça qui est assez dense, assez dingue, je dirais. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir le site internet de Mark Borg, qui est aussi une tuerie. C'est un truc avec un défilement qui part dans tous les sens, et on a l'impression de se perdre alors que tout marche très très bien. C'est vraiment
le jeu de base, et on peut le télécharger gratuitement, la version texte sans rien d'autre. Vous pouvez juste la télécharger sur le site, et ils fournissent des classes gratuites, des donjons gratuits, des personnages pré-tirés. C'est quand même très agréable, et la communauté fait de toute façon plein de contenus gratuits, ce qui est au final la meilleure façon de répandre son œuvre maintenant.
Je vais corriger, en fait, n'y allez pas, parce que si vous mettez le doigt dedans, c'est fini, vous allez remplir vos étagères de Borg.
Moi, j'ai même un tablier de cuisine Mark Borg, moi.
Sérieux?
J'adore quand ma mère l'enfile, qu'elle vient à la maison me faire de la tête de veau, et je la vois avec le tablier Mark Borg, qui dit, kill, pray, eat, un truc comme ça, eat, pray, kill, voilà, ça, qui était le nom d'un petit supplément, ouais.
Trop bien. Bref, on a digressé, tu nous disais que tu adorais Mark Borg, Charles?
En effet, je pense qu'on est dans le thème. J'adore Mark Borg, et je crois que c'est là où tu veux en venir. Et j'en ai même fait ma propre édition. Comme je le disais, tout le monde peut le faire, même moi apparemment. Et donc j'ai travaillé avec deux autres amis qui m'ont aidé à faire la couverture, des visuels et le layout, ainsi que de la relecture, parce que je ne sais pas très bien parler français quand j'écris des choses sur Word apparemment. Et j'ai fait l'écriture et pas mal de visuels, donc avec mes deux autres comparses. Et on a fait une œuvre de, je ne sais plus, à peu près 56 pages quand même, 55 pages.
Un gros scénario.
The Burning March.
Voilà, toute une nouvelle région avec plein de tables aléatoires, de nouveaux monstres, d'objets, de choses comme ça, avec un scénario complet à la fin. L'idée étant toujours de pouvoir se mettre dans le monde de Mark Borg, qui est assez peu détaillé pour que ça puisse exister, et en même temps assez détaillé pour que ce soit un fit qui marche avec l'univers. Et c'était un grand plaisir de faire cette œuvre. Ça a pris quand même 2 ans entre le début de l'écriture et puis la fin, puis faire de l'auto-édition sur RPG Drive-Thru RPG. Et voilà. Donc, c'était un projet qui était très intéressant à faire et technique, parce que c'est pas simplement mettre des mots sur une page. Il y a tout un layout graphique à respecter. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la qualité de l'œuvre originale, qui arrive à être extrêmement métal et déconstruite. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est un exercice de maîtrise et de restriction de faire du lisible tout en étant aussi apparemment chaotique. Mais ça ne l'est pas tellement au final.
C'est du chaos contrôlé.
Tout à fait.
Tu me passais tout à l'heure aussi la version Doom, c'est ça, de Mark Borg.
Je sais pas si on peut faire plus Doom que Mark Borg, qui s'appelait déjà Doom Metal Game.
C'est un fléau dans la gueule. C'est un peu ça le titre de Mark Borg. Et donc là, c'est une version Doom Metal avec une tronçonneuse où on tronçonne des hordes de démons. C'est sorti récemment, et l'idée, c'est que dans le monde de Mark Borg, on a trouvé des réserves de ce qui ressemble à du pétrole, et donc on découvre les premières machines type tronçonneuse ou choses comme ça.
Ah ouais.
Et on vient tronçonner du démon violemment, si possible, avec quelques petites nouvelles mécaniques, comme à chaque fois. Chaque extension essaie de
rajouter des petits morceaux,
soit une nouvelle règle, soit des nouveaux monstres, soit quelque chose de nouveau. Comprend, on comprend pas, c'est un peu la beauté de ce système. Ils disent vraiment ne respectez aucune règle. C'est écrit, je crois, dans une des premières pages de Mark Borg, c'est ne respectez règle 1, ne respectez aucune règle. Faites ce que vous voulez, c'est fun, c'est métal et on s'amuse. Et donc là, on est vraiment dans le pur produit Mark Borg derrière.
Ouais, alors je lisais en même temps le dos. Voilà, ça finit. On a un petit paragraphe qui décrit en fait qui nous sommes, et il y a marqué à la fin « Make them suffer ». Faites-les souffrir.
Ouais, c'est quand même assez ardent.
Oui, c'est pas pour jouer avec mamie, quoi.
C'est violent, c'est un monde pré-apocalyptique. Hein,
les créateurs le parlent eux-mêmes, ils sont finlandais, et ils disent c'est un peu cet humour finlandais qui est extrêmement noir. On est quand même dans un pays qui voit peu la lumière. Il y a vraiment un humour peut-être nordique qu'on connaît moins en France.
Ouais.
Ils disent eux-mêmes, nous, on a écrit des choses très noires, et la traduction, en fait, de Mark Borg vers l'anglais lui a donné un petit côté plus caustique, plus fun. Ouais. Mais au départ, c'était vraiment déprimant. Le monde de Morborg est déprimant, il est triste. On peut jouer là-dessus. Moi, je trouve que le côté métal, gore, un peu film de zombies, un peu du Sam Raimi avec les zombies, les choses comme ça peut être très fun. Après, on l'adapte comme on souhaite à sa table.
Ouais, parce qu'il y a un petit côté black metal, hein, moi, je trouve, oui. Autant dans les polices de caractère que même dans l'univers. Et ce que j'ai trouvé marrant, donc ça raconte quand même un peu l'histoire... on va dire d'une religion monothéiste qui est en train de prendre un peu le dessus, parce que en fait on a retrouvé des textes qui annoncent des calamités et ça marche, ces choses se répandent vraiment sur le monde et donc il y a toute une inquisition et tout un système religieux qui se met en place pour faire respecter ça. Et moi j'avais une bande de joueurs en fait qui travaillaient pour l'inquisition et dont le rôle dans ce jeu est d'effacer en fait toute trace de tout ce qui a existé avant dans ce monde, notamment des choses païennes, les choses polythéistes et tout. Et là on est dans le contre-pied total d'un peu de la doctrine black metal quand même qui existe depuis le début des années 90.
Après, c'est toujours aussi l'excuse dans ce monde-là de venir casser la gueule à ceux qu'on n'aime pas. Après, ils le disent hein, dans les biomes rock, c'est vous n'êtes pas des héros. Vous êtes des rejets, vous êtes des voleurs, vous êtes des gens méchants ou qui ont eu pas de chance dans la vie hein, aussi, ça arrive. Et on commence comme vraiment des gens fragiles. C'est un peu le principe de l'OSR, c'est que nos personnages sont jetables. La création de personnages, en plus d'être extrêmement fun, extrêmement rapide, on le fait en 5 minutes, il y a même des générateurs en ligne qui sont parfaits pour ça. Donc l'idée, c'est pas tant de s'attacher à un personnage, c'est de construire une plus grande histoire autour. Et ce que j'aime bien dans ces systèmes-là, c'est que on n'a pas peur de donner aux joueurs des objets beaucoup trop forts. Il y en a un qui est très drôle dans un des premiers scénarios, c'est une corne de chasse. Quand on souffle dedans, si tout le monde rate, tout le monde vomit de l'acide et meurt. Un objet extrêmement fort qui peut tuer des boss et voir tout le monde dans la pièce, hein, puisque dès qu'on l'entend, on a l'effet. Mais en même temps, on s'en fout. C'est marrant. On fait un TPK, on tue toute l'équipe et c'est très rigolo et ça fait partie du jeu.
Mais effectivement. Et c'est aussi un monde qui évolue énormément. Enfin, c'est à la vitesse qu'on veut, mais on peut lancer un dé, savoir comment les prophéties, en fait, à quelle vitesse elles se réalisent. Donc, vous pouvez décider qu'il n'y a plus qu'une semaine, en fait, ou alors il y a encore 7 ans devant vous, quoi.
La fin de monde sur un dé 20.
Complètement. T'as un univers à faire fabuleux, aussi chaotique que l'ouvrage et de la façon dont il est décrit graphiquement. Je vois pas quoi.
Mais quand même, je pense, que ça a été un gros choc dans, enfin, c'est un peu le gros succès de l'OSR quand même, ces 10 dernières années.
Ils sont arrivés à un moment où le jeu de rôle reprenait vachement vie. En France, en plus, on est très friands du jeu de rôle. On est un gros marché. Je pense que le Covid a aidé. On cherchait tous du lien social et des nouvelles façons de jouer. Et ça a vraiment dépoussiéré le jeu de rôle, clairement. Après, on a vu un essor, hein, surtout les jeux de rôle en ligne, les Roll20, les Donjons & Dragons ont tous grossi, mais là, ça a été vraiment, en effet, un renouveau du jeu de rôle moderne, contemporain.
Mais tout en restant, quand même, moi, je trouve, dans l'esprit un peu PMT, quoi. Porte-monstre, trésor.
Ah bah,
Donjons & Dragons des débuts.
Le Donjon classique.
Old school. Mais bref, on a un peu dérivé, parce qu'on parlait de Charles tout à l'heure, donc tu nous as parlé un petit peu de cet ouvrage. Bonne réception, c'est sorti quand déjà?
Alors, c'est assez intéressant, on l'a lancé ça cet été, un peu en début d'été de mémoire. Bonne réception, on avait fait pour la sortie donc un site sur Itch qui est souvent la plateforme, une page sur DriveThruRPG qui est quand même un des plus gros espaces de vente pour avoir parlé à d'autres créateurs de la communauté, un trailer et une musique spéciale pour l'événement pour essayer de faire un petit hype. Faut bien comprendre que c'est des centaines d'heures passées sur un projet qu'on ne retouchera jamais, hein, on ne fait pas ça dans un but financier. Et il y a quelques créateurs qui en vivent. Il y a Christian Heinhorn, je crois, qui est un des plus gros créateurs qui travaille d'ailleurs maintenant un petit peu avec les créateurs Morborg, qui en vit un peu, mais parce qu'il produit une quantité faramineuse de contenu de très haute qualité. Après, est-ce que la communauté arrive à en vivre? Je ne sais pas. Une bonne réception, des ventes. Après, c'est compliqué, hein, il faut exister, c'est de la compétition, etc. C'est pour autant ce que j'ai envie de faire. Il y avait une volonté de porter un projet à fruition. Je trouve ça génial dans notre monde digital de faire un objet physique. Oui. Et faire un livre, nous qui sommes rôlistes, c'est un bel objet. C'est quelque chose que je vais garder toute ma vie dans ma bibliothèque, que je peux donner à mes amis. Donc c'était surtout ça l'idée du projet.
Tu peux dédicacer.
Voilà, c'est cool, c'est chouette. C'est un objet physique qu'on matérialise par la force de notre pensée. Une très bonne réception. Les gens qui l'ont lu ont des très bons retours. Je touche sur le sujet du vaudou dans le livre qui peut être un sujet touchy, parce qu'en vrai, le vaudou parle quand même de colonialisme, parle d'Afrique, de
religion,
commerce triangulaire, de religion. Donc, on a essayé de l'aborder d'une façon très large, sans rentrer dans des choses qui pouvaient être touchy. Donc, il y a aussi tous ces débats-là, parce que dès qu'on crée du contenu, on parle à des gens, et il faut faire attention de la façon dont on parle et des sujets dont on parle. Mais on a eu des très très bons retours, et on le trouve fun, et surtout, plus important, je le trouve fun, parce que c'est moi qui vais y jouer sans doute le plus, ou le faire partager à des gens le plus.
Est-ce que justement, oui, c'est... je pense que tu as répondu à la question, parce que c'est un ouvrage qui maintenant, aujourd'hui, te plaît toujours. Est-ce qu'il y a des choses que tu modifierais dedans quand même?
Le plus dur, ce qui me plaît le moins, c'est l'impression. Parce qu'on fait de l'impression sur DriveThru RPG. Je maîtrise pas, j'ai des endroits, j'ai des blancs entre les pages, juste comme ça, parce que faire de l'impression, comme Morkdod ou du Morkborg, qui sont extrêmement haute qualité, c'est un process qui est beaucoup plus complexe. Et j'ai découvert que passer du PDF au livre physique, je chopais plus de cheveux blancs que j'en ai déjà, parce que il faut faire des fichiers différents. J'ai découvert que les fichiers américains de DriveThru RPG, c'est pas un format A5, c'est un format qui est légèrement différent. Donc on a dû refaire tout le layout pour que ça fit, parce que c'est légèrement plus élancé. Et c'est des choses qu'il faut être accompagné, ou alors faut avoir fait beaucoup d'erreurs pour en apprendre. Donc c'est le plus gros regret, c'est ça, passer au physique, c'est extrêmement compliqué. Par contre, j'en suis extrêmement content.
Ouais.
Et c'est toujours imprimé aux États-Unis alors, non?
Là, je crois que c'est imprimé en Angleterre.
D'accord.
Ce qui n'est pas tellement plus pratique maintenant que l'Angleterre a fait son Brexit.
C'est clair. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres choses dans ce format-là, ou dans le jeu de rôle, ou
Alors, on avait sur le premier, c'est écrit Vagrant numéro 1, parce que Vagrant, c'était un peu le nom de notre projet. L'idée, c'était d'en faire 3. Faut les écrire, parce que j'ai tendance à papillonner sur beaucoup de projets. Ça va venir, sans doute dans 10, 20 ans ou dans 6 mois, en fonction de comment ça me pique derrière. Mais comme tu le disais, j'ai fait mon jeu de rôle du Cutchouette, enfin ouais, jeu de société de Cutchouette. J'ai fait un plateau, j'ai fait des règles. Je suis très touche à tout, donc ça tourne, on va dire. Je dirais pas tellement de dates, c'est souvent décevant.
Oui, après faut pas forcément s'avancer trop vite, mais parce que même des éditeurs parfois ont des projets qui ont des retards de plus de 5 ans, donc voilà, c'est voilà, on donnera pas de nom. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi ton job? T'es graphiste à la base,
Pas du tout. Moi, je fais un job au départ, pas de personne créative. J'ai fait
inspecteur des impôts.
Alors non, j'ai fait à Angers, j'ai fait l'ESCA, puisque j'ai fait mes études à Angers, et je suis sorti commercial avec un master assez généraliste, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie à part être geek, ce qui n'est pas une personnalité entière. Et j'ai fait des études pas créatives, j'ai fait un travail pas créatif pendant longtemps, mais j'ai eu la chance d'être dans une boîte où j'étais entouré de beaucoup d'artistes. Et là, actuellement, je suis chez Adobe, Photoshop, PDF, et à côtoyer des artistes par osmose, on finit par apprendre un peu. Et je me suis dit que peut-être que j'essaierais de faire un petit peu de Photoshop moche, de faire des petits edits sur des outils, de faire un petit peu de montage vidéo. Et en fait, à force de 10 ans d'en faire, on chope des trucs apparemment. Et puis, c'est ça. Donc c'est né d'une volonté d'essayer, d'à chaque fois de faire un projet, de faire un petit peu mieux. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, et que apparemment, j'étais pas complètement mauvais, parce que je pense que c'est de la passion qui parle avant tout. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc je suis pas particulièrement artistique, mais j'ai appris à le devenir, parce qu'en fait, c'est pas artistique, c'est pas du talent, c'est du travail surtout.
Oui.
On n'est pas magiquement doué. C'est ça souvent qu'on peut croire, mais non, non. Et je suis très pas envieux, mais respectueux des artistes qui sont talenteux, parce que je vois le temps que ça prend de faire des choses à moitié réussies. Donc on voit la qualité que certains produisent, on comprend le temps et la dédication qu'ils y ont mis.
C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de l'ouvrage. Tu fais, on peut arriver à faire un truc vachement bien, mais il faut faire pas mal d'échecs avant. Un artiste, un créateur, c'est souvent ça, c'est une somme d'échecs, c'est une somme de tentatives qui font qu'aujourd'hui, ça a l'air facile. C'est la même chose qu'un sportif. Un sportif, même comme Usain Bolt, même s'il a peut-être des facilités, il n'a pas couru aussi vite que ça tout de suite. Il s'est entraîné.
Il court vite quand même.
Oui, il court vite quand même. Mais voilà. Eh ben c'est super cool. Est-ce qu'on peut voir ton taf ou les projets que tu as quelque part
sur le Itch? C'est là où il y a tous les projets, les fiches de perso gratuites, des choses comme ça. Je sais pas si je pourrais
Si, tu as tout à fait le droit de donner les noms.
Je crois que c'est mon pseudo, c'est istalri.itch.io, istadlri. qui est mon pseudo internet, on retrouve ma chaîne YouTube, le Itch, les choses comme ça, et tout ce projet est disponible sur Itch avec plein de petites contreparties numériques pour bien sûr appâter le chaland et le rôliste.
Parfait. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube du coup?
C'est une chaîne où je fais plus trop, mais j'ai fait pas mal de vidéos de virtual tabletop qui s'appelle Tellspire, qui est une sorte de boîte de Lego. On va construire ses miniatures, ses villes, ses donjons, whatever. Et puis on joue à la poupée avec mon personnage dedans pour faire du jeu de rôle en ligne en fait. Et c'est très très chouette. J'ai aussi pas mal bossé grâce à ça avec Aeroforge, ceux qui font les petites figurines.
Ouais.
Je me suis occupé de faire des vidéos sur leur YouTube pendant un an dessus.
Nice. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé?
Alors, je pourrais parler de moi pendant des heures, mais c'est pas trop l'idée. Non, je suis très content de pouvoir partager ça. Moi, c'est vraiment une passion. Je pense faut, c'est ça le message. Faut faire ce qui vous passionne. J'avais aucune idée que le but c'était pas de faire un livre au départ. Le but c'était d'écrire quelque chose, de m'amuser. Et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus concret. C'est un peu comme un mirage. Plus on s'en rapproche, soit ça disparaît, soit ça apparaît. Là, le travail qu'on a mis est sorti sous forme de livre. Peut-être qu'un jour, ce sera un autre format, autre chose. Mais je pense qu'il faut se lancer dans les projets qui nous passionnent.
C'est un bon voilà. Et peut-être ce sera un échec, mais cet échec, ce sera une expérience pour peut-être réussir quelque chose de plus tard.
C'est pour ça qu'il faut toujours s'amuser, parce qu'au pire, on rate, mais c'est drôle.
C'est clair. Romain, on va faire un point utopial, parce que c'est bientôt, c'est du 30 au 2 novembre 2025, donc c'est autant dire quasiment demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain, ou encore après-après-demain. Désolé, blague à part. Nous serons au moins trois dans cette pièce à y être. Charles, tu y seras ou pas?
Hélas, non, j'ai Halloween, mais mon maître de jeu, il sera là-bas avec une table ronde, qui sera Jean-Marc Chosereau. Je vous invite chaudement à aller le voir, il est très fort.
Il s'appelle Tollcraft, non? C'est pas ça?
Tollcraft,
ouais,
en
voilà,
fait.
Tollcraft.
Sous ce nom-là, ouais. Romain, tu y seras pour quelle raison?
Moi, j'y vais en tant que MJ bénévole et je ferai jouer Ta gueule, c'est quantique. Vendredi. Des parties d'une heure.
Bien drôle.
Ouais. Donc, et bien référencé SF.
Ouais. Nolwenn, c'est sur inscription, c'est
comme tout aux Utopias, je crois, il faut arriver le matin, éventuellement s'inscrire à des trucs. Le cinéma, c'est pareil, il me semble.
Ouais, il y a cinéma soit les réservation aussi, en boutique ou par internet. Et pour les jeux de rôle, il y a une sorte de d'accueil pour les tables et on s'inscrit sur les sessions à la journée.
Ok, il y a une plateforme pour
Non, vous parlez à des gens, des vrais gens.
Vous parlez à des vrais gens.
Ouais. Okay. Des vrais gens.
C'est compliqué les vrais gens.
C'est ça. Envoyez un pigeon ou un mail. Et toi, Nolwenn, tu seras aussi au Utopial?
Bien sûr. J'ai mon rôle de groupie de Nicolas Martin à tenir, donc j'y serai pour ça. Et j'y serai aussi pour le Labo des Savoirs, du coup, qui est la radio de vulgarisation scientifique localisée sur Nantes. Et je ferai ma chronique dans l'émission de samedi. Voilà.
Top. Tu seras cosplayé? Non.
Non. Non, non, je suis pas cosplayée aux Utopiales.
D'accord.
Artoublet, oui, peut-être. Les autres conventions plus geek, oui, mais Utopiales, c'est trop compliqué.
Trop sérieux.
Ouais, trop... Non, juste trop compliqué.
Romain, tu n'iras pas en princesse, donc.
Non, je vais me cosplayer en savant fou. Hein.
Savant fou. Et c'est quantique.
Je mets une blouse et voilà.
Il y aura aussi Richard qui enregistrera un épisode de La Mémoire Arrangée en direct.
Dimanche matin.
Dimanche 10 matin, 10h. N'hésitez pas à réserver vos places, hein, puisqu'il faudra réserver aussi, j'imagine.
À voir sur la page de la team Javras, soit le site La Mémoire Arrangée, soit Instagram. Et je l'ai pas dit, mais du coup, l'émission du Labo des Savoirs spécial Utopial, ce sera au Café de la Cité. Donc, pour ceux qui savent où c'est tous les, enfin, tout, presque tout le temps là-bas. C'est le petit resto snack qui est à côté de la Cité des Congrès.
De toute façon, il y a un plan, peut-être, j'imagine, sur le site ou.
Oui.
Ok. Pour la mémoire arrangée, je précise, je transmets et je fais suivre l'appel en fait de Richard. Il y passe énormément de temps. Moi, je trouve que c'est, alors c'est pas parce que je le connais que je dis ça, c'est super qualitatif ce qu'il fait. C'est ultra drôle. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ce que fait la team Javras. Il y a un Patreon, c'est ça, en plus, sur lequel,
Patreon,
c'est un
Tipeee.
Voilà. Pour le prix d'un café, peut-être trop cher à Paris, pour reprendre l'allusion d'un YouTuber, n'hésitez pas à donner un petit peu, ça file un coup de main, ça récompense le travail fourni. Et puis, il dort des fois, Richard, ou il fait toujours son montage?
Disons qu'il se couche à 4-5 heures et il se lève à 10h, 11h, donc petite nuit, quoi.
Voilà, des nuits plutôt courtes. Donc, ouais, non, Mémoire rangée, c'est vraiment très cool. C'est une complète déjà finie, il y a eu des interludes, il y a une saison 2 qui est commencée. Là, ce sera un hors-saison, hein, si je me trompe pas.
Non, en fait, pour la saison 2, il y a différents binômes qui sont suivis. Et là, du coup, on va découvrir un autre binôme qui va avoir son arc dans la saison 2.
D'accord, ok.
Voilà, voilà.
Bon, bah, écoutez, on découvrira tout ça. Si ça peut vous motiver.
Et vous pouvez venir voir, je le précise, l'épisode, vous pouvez venir l'écouter, même si vous ne connaissez rien de la saga, vous n'avez, même si vous n'avez ni écouté la saison 1, ni les hors-série, enfin hors-saison, pardon.
Oui, c'est accessible à n'importe
vraiment,
qui.
Vous pouvez venir et en une heure, vous aurez une histoire comme ça, telle quelle, il n'y aura pas de souci, vous pourrez comprendre.
Ouais, je voulais dire qu'il y aura une partie de la bonne auberge aussi, à laquelle participent d'ailleurs des gens qui. Enfin, un peu de. Qui font partie de la tête des Utopiales, donc ça je trouve ça assez rigolo. Et puis cette année, je trouve que la programmation des Utopiales laisse pas mal la place aux jeux de rôle, et notamment dans les conférences qui d'habitude ne parlaient que de littérature ou de cinéma ou de science. Cette année, il y a vraiment des thèmes jeux de rôle qui seront dans donc alors, dans les confs.
Est-ce que c'est dû aussi à l'affiche réalisée par Stéphanie Hans qui a non seulement illustrer une bande dessinée qui parle de jeu de rôle, mais aussi un jeu de rôle issu de la bande dessinée qui parle de jeu de rôle. Je pense qu'il y a aussi cet impulse-là qui doit fonctionner. Ouais, il y a une masterclass le dimanche matin de Stéphanie Hans. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ce sera vraiment un truc très très cool. C'est une artiste qui est absolument fantastique, qui a un trait qui est fabuleux. Si vous regardez juste l'affiche, et puis je n'avais pas besoin de vous convaincre. Hein, donc.
Et d'ailleurs, j'espère qu'on pourra jouer au jeu de rôle Die.
Ça, c'est pas gagné hein, quand même. Mais on verra. Il est 21h56. Il va être l'heure qu'on se quitte pour se retrouver dans 15 jours. Oui, tu voulais
rajouter. J'ai oublié de préciser qu'aux Utopiales, il y aura aussi les chants de Tindalos qui seront là en présentiel. Et vont...
Il y aura.
On en parle beaucoup de Tindalos en fait sur les voies de cinéma.
C'est vrai.
Et voilà, ça peut être l'occasion aussi de venir à leur table et de tester leur jeu de rôle qui est juste incroyable. Donc, dans ce. Le drôle horrifique un peu Cthulhu-esque revisité.
Ouais, il y a pas mal de jeux de rôle qui seront présents. Il y a Jean-Marie Noël qui a
qui viendra faire jouer du light.
Un monument en fait de Casus Belli. Il y aura les miaulements d'Ultar qui seront présents. Il y aura plein de monde en fait. Donc n'hésitez pas à aller, si vous connaissez rien en jeu de rôle, allez découvrir ces gens-là. Et c'est des artistes et des créateurs qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes. Si le jeu vous plaît pas, c'est pas grave. Au moins, vous avez expérimenté. Et je sais plus, il y a forcément au moins un jeu de rôle pour quelqu'un chercher, fouiller.
Il y a même du jeu de rôle pour les enfants et il y a même du jeu de rôle mené par des enfants.
Eh ben, faudra découvrir
pour les enfants. Ce sera 10h-19h en journée, mais il y a une nuit du jeu de rôle, il me semble.
Oui, oui.
La nuit ludique.
Je sais plus si c'est du samedi au dimanche ou du vendredi au samedi, mais il y a... Effectivement, il y a
je crois que c'est samedi, samedi soir, ouais.
Dans l'événement ouais. Où en fait c'est ouvert uniquement pour les tables de jeux de rôle et il y a plus de tables de jeux de rôle du coup qui sont disponibles parce qu'ils prennent la place. Enfin, ils vont dans d'autres salles.
Eh ben, c'est parfait. Et bien, il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble à nouveau les voies du Scénarium.